L'association Educachou présente votre émission sociale de proximité Babaco sur votre radio. Babaco vous accompagne dans votre quotidien à la découverte des initiatives et des actions solidaires dans les quartiers et les villes de La Réunion. Babaco se fait l'écho de vos projets, démarches et événements. Exprimez vos opinions, partagez vos doléances. Vous avez la parole avec Babaco. Vous êtes à l'honneur avec Babaco.
Alizé, vous êtes professeur de théâtre. En quoi consiste votre activité ?
On parle avant tout d'émotions. On essaye vraiment de travailler sur tout ce qui est spontanéité, créativité, partage, communication, savoir occuper l'espace et réussir à bien communiquer avec ses camarades.
Théâtre est une forme d'art qui permet de s'exprimer, de communiquer avec les autres.
Tout à fait, tout à fait. Le théâtre est complètement un art à part entière qui permet de se libérer, de parler de ce dont on a envie, de soulever des sujets intimes et syndrome de Gilles de la Tourette associé. Donc, en fait, avec ces enfants, je les avais de 6h du matin à 23h. Je me dis, mais à part du sport, etc. J'ai dit, bah tiens, le théâtre, j'en ai fait pendant 2 ans dans une... C'était de l'absurde. Donc, je leur ai fait faire de l'absurde. Du côté thérapeutique, c'est-à-dire que ces enfants qui ont du mal à parler, qui ont du mal à s'exprimer, ils avaient beaucoup de choses sur le cœur en fait. Et ils ont improvisé. Et c'est là que j'ai créé par exemple un exercice qui s'appelle le défilé des émotions, qui consiste à jouer 6 émotions comme des top modèles, mais c'est vos émotions qui comptent. Et physique adaptée et santé, tout à fait. J'ai un double master STAPS, donc un en ingénierie et de la santé. La licence APAS, donc activité physique adaptée et santé, et un autre master en management du bien-être du sport physique et mental des individus et des organisations. Donc avec ça, sur le côté parallèle, je faisais du théâtre déjà à la MJC en même temps que je terminais mes 2 masters. En fait, c'est de l'activité physique qui s'ouvre à des personnes en situation de handicap ou porteuses de pathologies ou non. C'est vraiment pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on adapte des séances profilées et individualisées aux personnes en fait qui sont en demande de réathlétisation, de renforcement musculaire, de danse-thérapie. Ça peut aller sur plein de disciplines selon les demandes.
Tu penses que le théâtre est devenu une discipline ou une activité totalement à part ?
Complètement complémentaire, hein. En le voyant tout à fait en colonie de vacances, les jeunes, ils étaient en demande. Bien sûr, on faisait une après-midi sessi foot avec les enfants malvoyants. On faisait des ateliers randonnée pédestre avec les enfants à leur rythme. Mais ça ne nous empêchait pas de faire parvenir du théâtre. C'est-à-dire pendant les randonnées, on travaillait la voix. Comment faire porter sa voix, comment parler bien fort, se tenir droit, regarder les gens dans les yeux, tout ça fait partie du théâtre. Et on peut le retrouver dans la vie de jour. Donc j'essayais d'inclure du théâtre même dans l'APA. Et aujourd'hui, j'inclus également de la psychologie positive dans les séances de théâtre, ce qui le rend thérapeutique.
C'est bien ça, ou des adultes ?
Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. À la MJC, j'interviens dès 5 ans et je viens d'ouvrir, rien qu'hier matin encore, le cours senior. Donc il y a de la demande, c'est vraiment pour, on dit, il n'y a pas de barrière d'âge. Les groupes en avoir jusqu'à 10 ou 12 personnes par heure. Et vraiment, ça se passe assez naturellement. Les gens sont contents des séances, ils reviennent très rapidement.
Alors, on va parler maintenant émotion. Parce qu'on voit que le théâtre est un travail qui souvent... Est-ce qu'on peut dire que l'émotion est un élément central de l'activité du théâtre ?
Tout à fait, il est central, car sans émotion, il n'y a pas de théâtre, puisque pour moi, le théâtre permet de transmuter des émotions, une émotion à une autre, de manière rare, si c'est voulu, de manière très saccadée, parler et créer de l'absurde, enfin.
Ça veut dire quoi ?
Bah, je prends l'exemple de Eugénie Ionesco, la cantatrice chauve. C'est une pièce qui représente tout à fait l'absurde, c'est-à-dire que les répliques sont d'un non-sens complètement farfelu. La cantatrice chauve, le titre même de la pièce de théâtre, est venu comme une blague, en fait, les gens, pendant que les théâtres répéter leurs pièces en fait. Et au théâtre d'improvisation, j'utilise souvent l'absurde, c'est-à-dire que le texte et que si on dit quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'impro, bascule dans l'absurde et dans ce cas-là, les spectateurs, ils partent dans des émotions d'humour. La comédie fait partie de la vie de tous les jours, tout le monde a déjà été stressé au moins une fois. Après, il existe le bon et le mauvais stress, comme on dit, le stress qui nous permet de nous surpasser, d'aller affronter justement cette espèce de trac, dépasser nos limites dans des choses raisonnables. Alors qu'après, il y a le stress chronique, là qui devient maladif, les gens qui font des crises d'angoisse. J'ai beaucoup d'élèves dans ce cas-là. C'est vrai que ce stress-là, c'est plus compliqué parce qu'ils ont des effets sur le physique qui sont difficiles à gérer, c'est-à-dire des tremblements, des bégaiements. Des fois, ils vont perdre leurs cheveux, des migraines, des maux de ventre. Donc, ils ont du mal. Mais à la fin des cours, il arrive qu'ils viennent me voir en disant « Bah voilà, madame, je suis stressée, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et souvent, je les ai eus en cours après, je leur fais travailler plus individuellement les exercices, leur donnant des petites billes comme prendre un point fixe, comme regarder à un endroit. Souvent dans la salle, je leur demande de rajouter un dessin pour qu'ils se sentent à l'aise, des points de repère. Comme ça, ils le pensent à un moment agréable. Donc, la gestion du stress, le théâtre aide beaucoup, puisque on n'a pas l'habitude de parler devant plein de gens et on a peur de se faire juger et du regard des autres. Sauf que le théâtre est un bon endroit, puisqu'en échauffement et en entraînement, on ne se juge pas entre nous. On ne s'apporte que des solutions, des petites billes pour s'améliorer, ce qui change et qui fait diminuer notamment le stress. Hier matin encore, mes nouvelles élèves m'ont dit « Je pensais que j'allais stresser et en fait, vous mettez tout à fait à l'aise. Vous avez vraiment cette facilité de nous mettre à l'aise, tout le monde se sent bien, on n'est pas stressé du tout. » Et ça m'a fait plaisir parce que je tiens beaucoup à ça, ne serait-ce que sourire pendant que quelqu'un fait une prestation, c'est important. Suivre la personne dans son émotion aussi, c'est-à-dire que si la personne sur scène elle pleure ou qu'elle est en train de jouer le dégoût, moi je vais la regarder, je vais la suivre dans son émotion, je vais pas rire à ce moment-là. C'est très important d'être empathique et de suivre la personne pour que la personne ne se sente pas agressée. Justement. Donc oui, je les aide à la gestion du stress. Même à la MJC, je donne des cours de relaxation dans les écoles pour les aider à travailler leur respiration. Puisqu'au théâtre, toute émotion passe par la respiration. On les différencie par des types de respiration rapide, saccadée, en apnée. Et physiquement, dans notre corps, il y a des gens qui ont du mal à se détacher de ça parce qu'ils ont été stressés depuis tout petit. Des fois, c'est lié à l'enfance. Du coup, les gens, quand on fait des scènes de théâtre où ils travaillent un personnage d'enfant, ça leur fait remonter beaucoup de stress parce que dans leur enfance, ils étaient stressés, des fois violents, au lieu de retravailler des choses du passé que s'ils travaillent un personnage du futur. Par exemple, si mon élève a 17 ans et qu'elle va travailler un personnage de 35 ans, elle aura plus de facilité que si elle doit se jouer.
Est-ce que le stress, on le remarque déjà chez le jeune public ?
Tout à fait. Moi, j'ai des enfants, ils sont hyperactifs. Donc, il y a un stress associé à cette hyperactivité parce qu'ils sont souvent reculés, repoussés et un petit peu jugés dans les premiers moments, on va dire, parce que les autres enfants ne comprennent pas pourquoi l'enfant est dans la salle, pourquoi lui, il a une double consigne. Moi, ce que je fais avec les enfants hyperactifs, c'est qu'ils ont toujours deux choses à faire en même temps. Comme ça, ils ne s'ennuient pas. Parce que les soucis avec les enfants hyperactifs, si on leur donne qu'une seule consigne, c'est qu'ils vont décrocher très très rapidement. Donc on les remarque vraiment là-dessus. Et pour les personnes qui stressent, on leur donne vraiment la parole, on leur dit de ne pas le garder pour eux. Parce que les gens qui intègrent un stress et qui n'en parlent pas, c'est là qu'il va se manifester physiquement sur le long terme.
Alors maintenant, si vous voulez bien, on va parler de la communication bienveillante. De quoi s'agit-il ?
On en parle déjà dans une marque prédéposée, de la communication.
Votre émission sociale de proximité Babaco revient juste après la pause.
Avec vous. Alors, vous nous disiez avant la coupure, communication bienveillante, communication non violente, est-ce que c'est la même chose ?
Oui, c'est complètement la même chose, sauf qu'il y en a une, on n'a pas trop le droit de l'utiliser puisqu'il y a un brevet déposé. Donc on va parler de communication bienveillante vu que l'autre marque est déjà achetée, tout simplement.
C'est-à-dire que la communication non violente est une marque déposée, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'il y a des psychologues cliniciens qui utilisent ces termes et qui ont une certification pour utiliser ce type de communication. Voilà, ils utilisent ça, c'est être acerté, voilà, c'est une attestation, un certificat.
Alors, la communication, bon, c'est un mot qu'on entend relativement souvent, mais la communication bienveillante, ça fait pas longtemps qu'on entend ces deux mots associés, communication bienveillante. Pourquoi ces deux mots ont été associés?
Parce que dans la bienveillance, on va parler d'abord de soi. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont parler, par exemple dans le théâtre, et que j'utilise la communication bienveillante, ils vont dire ce que eux ils ont ressenti. Ils vont pas accuser la personne en disant tu as fait ça, tu as fait ce dos public. Non, j'ai ressenti que je n'ai pas été regardée suffisamment. J'aurais aimé plus de soutien visuel parce qu'ils parlent de leur ressenti. Si on emploie beaucoup plus le jeu, le ressentiment, les émotions, et on va pas accuser. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on fait beaucoup de reproches sans s'en rendre compte, en voulant être bienveillant, mais ça peut être très malin. Là, même quand c'est libre à sujet à l'interprétation, la communication bienveillante, on fait attention à parler de soi. Je demande même aux enfants de 5 ans de dire ce qu'ils ont pensé de l'impro et de toujours donner leur avis en commençant par je, toujours.
Ils parlent d'eux en fait alors.
Alors, au début, les premières séances, ils sont souvent très timides, hein, et une anecdote. Donc, une anecdote, c'est qu'ils doivent parler d'eux, en fait. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Une petite information, ça peut être, bah, tiens, moi, j'aime les chats. Moi, hier, je suis partie à la piscine et j'ai aimé ça. Voilà, j'ai besoin d'avoir ce petit retour. Ça prend 5 minutes, mais ces 5 minutes-là sont très importantes dans mon cours, puisqu'il me permet de travailler au niveau de mes séances, puisque dans mes séances, je ne prépare pas un cours à l'avance. J'ai une boîte à outils dans laquelle je pioche en fonction de l'état émotionnel des élèves.
Est-ce que vos élèves arrivent à parler d'eux, bah, avec bienveillance, avec confiance, avec sans reproche? Parce que parfois on peut se faire aussi des reproches à soi-même.
Beaucoup, oui, en effet, au niveau des adolescents, souvent ils se reprochent tout, ils trouvent que leur impro était pas bien. Alors souvent, je leur demande si je peux les filmer et leur envoyer ensuite pour qu'ils voient et qu'ils aient cette prise de recul. Et souvent, ils sont surpris parce qu'ils me disent, ah oui, mais j'avais pas l'impression qu'on m'entendait si bien. Ah bah, j'avais pas l'impression que je me tenais si droite comparé à d'habitude. Ils ont un regard très péjoratif souvent au niveau des adolescents et même les petits. Hein, c'est vrai que ça dépend des cours, mais c'est propre à chacun. Il y en a, ils sont très confiants et qu'ils arrivent déjà à parler d'eux. Mais souvent, on retrouve le cas particulier de l'enfant timide, introverti, qui a du mal à se livrer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il vient à mes séances. Les parents ont vu, au bout d'un an, beaucoup de différences. Je prends l'exemple d'une de mes élèves qui, avant, faiblement, elle avait vraiment du mal à se tenir à droite et à regarder les gens dans les yeux, ne serait-ce que pour dire bonjour. Et le théâtre l'a beaucoup aidée. J'ai eu des retours des parents qu'ils étaient très fiers de cette petite fille. Parce qu'elle progresse très vite, elle parle vraiment clairement, elle articule, elle n'a pas peur. Alors qu'avant, elle tremblait et elle chuchotait carrément, tout le temps, toute la journée. Donc, ils arrivent à prendre confiance au fur et à mesure des séances. C'est pas magique, c'est pas en une heure de temps, mais sur le long terme, on voit un effet quand même très impressionnant.
Est-ce que dans votre travail de théâtre, il y a des exercices pour apprendre à parler, pour apprendre à articuler? Le spécial, pour la Réunion, peut-être ailleurs aussi pareil, prennent des rendez-vous d'orthophoniste. Maintenant, il faut savoir que pour avoir un rendez-vous orthophoniste, c'est entre 6 mois et 1 an. Est-ce que le théâtre n'est pas aussi quelque part une alternative à la prononciation? Est-ce que ça peut faire partie?
Complètement, en tout cas, je l'espère. Moi-même, j'ai fait 7 ans d'orthophoniste. Voilà, donc souvent, j'avais du mal à articuler, j'avais un cheveu sur la langue quand j'étais. Donc, j'ai travaillé. Le théâtre m'aide encore. Et oui, je demande à mes élèves d'articuler, je donne des exercices assez drôles. Je reprends souvent Ionesco, justement, une de ses répliques. Les cacaoyers et des cacaoyères ne donnent pas des cacahuètes, mais du cacao. Et ça, par exemple, c'est une phrase toute simple, toute rigolote, mais qui demande un peu d'exercice pour les petits, même pour les plus grands, figurez-vous. Donc, on peut être assez surpris de leur demander d'articuler. Pour les tout petits, notamment, je leur demande de travailler les voyelles pour avoir cette notion de souffle, qu'ils parlent avec le ventre et non avec la gorge ou les poumons. Sinon, ils n'auront plus de voix au bout d'une heure. Je sais de quoi je parle. C'est très important de parler ventral et de bien respirer lorsque l'on parle.
Les émotions associées aux respirations, ça veut dire que la respiration a une importance pour bien apprendre à parler, bien apprendre à articuler. La relaxation, la respiration est importante pour les enfants dans les écoles pour apprendre à relaxer, à se détendre, pour mieux pouvoir travailler.
Tout à fait. Selon moi, on ne peut pas bien travailler, bien s'exprimer si on ne sait pas respirer. Vraiment, c'est très important parce que on est bloqué, même si on doit travailler la mémorisation, par exemple. Si les enfants à l'école, ils ont besoin d'apprendre un texte ou de résoudre un exercice, s'ils sont stressés par l'examen ou la maîtresse ou le camarade à côté qui les embête, ils vont avoir du mal à se concentrer parce que leur rythme cardiaque va s'accélérer. Ils vont hyperventiler, ce qui va générer un stress physiologique. Donc, c'est très important qu'ils apprennent, par exemple, à faire la cohérence cardiaque. Moi, souvent, quand j'interviens avec les enfants hyperactifs, j'ai écrit deux mémoires sur la cohérence cardiaque et je leur fais part de mes recherches en leur expliquant voilà, on prend 5 minutes pour quoi ? On prend 5 minutes pour respirer, pour apprendre à respirer parce qu'on ne nous l'apprend pas tout le temps. Heureusement, de nos jours, dans les écoles, ça se fait de plus en plus souvent et c'est quelque chose que j'aimerais faire perdurer. Même avant les spectacles, avant de se produire au Théâtre Luc Donat l'année dernière, mes élèves, ils ont fait 5 minutes de cohérence cardiaque en pleine conscience, ils ont appris à bien respirer et ils n'ont même pas bégayé devant...
Alors, Alizé, tu travailles à la MJC du tampon ? Pourquoi avoir choisi cet endroit ?
Parce que les valeurs d'une MJC me correspondaient tout à fait. C'est vraiment le côté partage, communication, bienveillance, écoute, créativité me correspondait très très bien. J'aime travailler avec mes collègues, professeurs de danse, de chant, d'art plastique. Ce qui est intéressant, c'est au sein des réunions de mélanger nos compétences, nos qualités, tout regrouper. Et c'est ça qui fait une MJC forte et belle comme aujourd'hui. Moi, je suis très heureuse de travailler à la MJC du tampon puisqu'on peut accomplir des galas avec 600 personnes, avec le partenariat du Théâtre Luc Donat. Et c'est formidable. J'ai même l'occasion de travailler à l'auditorium de la médiathèque pour faire des petites scénettes et des matchs d'impro avec mes élèves. Et c'est vraiment une chance qui pose d'avoir autant de scènes, ces petits. On a même eu une scène pour le Florilège l'année dernière. Donc c'est vraiment intéressant et ils ont une visibilité. De même que je ne force pas mes élèves à monter sur scène et la MJC le comprend tout à fait. Mais je vais prendre un exemple très simple, l'entretien d'embauche. Tiens, il y a la personne qui veut son emploi et le patron qui le regarde. Et bien, il y a des mises en situation qui se font au théâtre. J'ai des élèves adultes qui font des formations au téléphone et qu'ils ont besoin de travailler et de s'affirmer au téléphone parce qu'ils ont leur patron régulièrement. Et ils ne savent pas comment leur parler, ils ne savent pas comment s'affirmer et parler distinctement. Ils bégayent, ils ont peur de dire un mot de travers. Donc, je leur apprends en les mettant en situation qui peut avoir plusieurs cas de figure. En gestion des conflits, on a vraiment l'affrontement. Donc, je prends l'exemple du lion, par exemple. Lui, il va toujours affronter, dire tout ce qu'il pense et il va pas... Votre solution, ce sera pas la relation qui compte, ce sera sa solution à lui. Et il y a également, dans la gestion des conflits, le dauphin, sont ceux qui veulent collaborer. Il y a des patrons avec leurs salariés, les employeurs, ils sont à l'écoute de leurs employés. Oui, tout à fait, c'était une demande de l'ARS et du lycée L'Horizon à Saint-Denis. Donc on avait des collaborations avec les lycéens et des enfants des quartiers défavorisés qui avaient des maladies, des pathologies. On travaillait notamment l'inclusion sociale, c'est-à-dire que la moitié des élèves étaient non porteurs de pathologies pour qu'ils puissent rencontrer plein d'enfants en fait, aussi bien pour les enfants non porteurs de handicap que ceux qui sont porteurs d'handicap, qu'ils puissent se rencontrer parce que avec les institutions qui sont très bien aujourd'hui, heureusement qu'elles sont là, ils différencient et catégorisent les personnes et moi je voulais lutter contre ça et que les camarades que les élèves puissent devenir camarades et amis, même s'il y avait cette barrière d'handicap, on ne leur retrouvait même pas pendant la colonie de vacances, ils étaient amis. Voilà, pendant 5 jours, 7 jours, 24 heures sur 24, on les voyait amis malgré la barrière du handicap, ça m'a beaucoup marqué. Il y avait des cours de Maloya, du théâtre avec moi, de l'activité adaptée, on faisait il y avait des intervenants qui venaient pour nous expliquer les jardins grand-mère, jardins grand-père, comment utiliser les plantes qu'on a la chance d'avoir à La Réunion. Donc c'était très formateur, il faisait très froid au Grand Brûlé. On était au centre de lecture du Grand Brûlé, d'ailleurs on a été très très bien accueillis par Madame d'Ambreville, c'était vraiment une chance fantastique de travailler avec des gens comme ça, qui ont le cœur sur la main. Vraiment, j'en garde un excellent souvenir. Quand je suis avec des enfants victimes de violences familiales ainsi que des enfants atteints d'hyperactivité, problèmes de syndrome autistique certaines fois et des problèmes de mutisme. Pendant un an et demi, j'ai suivi une petite fille dans une école. Elle était muette, c'est-à-dire qu'elle ne parlait pas. Elle savait parler, mais phobie sociale. Elle était muette, elle ne parlait pas, elle n'arrivait pas à respirer. D'ailleurs, elle était tout le temps en apnée quand elle me regardait au début. Puis petit à petit, de voyelle en voyelle, de phrase en phrase, on a réussi à travailler ensemble et à créer du dialogue et aussi à exprimer ses émotions. Moi, c'est plus pour ça que je suis contente, c'est que maintenant, elle montre quand elle est en colère. Elle se laisse pas faire alors qu'avant, elle se mettait juste en boule et elle se recroquevillait pendant une heure. Maintenant, elle dit pourquoi elle a mal, pourquoi elle va bien et elle apprend à se justifier.
Alors, Alizé, notre émission arrive progressivement à sa fin. Si vous auriez un mot ou un message à faire passer aux jeunes qui vont nous entendre, quel serait ce message ?
Bah, pour conclure, je dirais que le théâtre est vraiment quelque chose de formidable parce que lorsqu'on en pratique régulièrement, on se sent mieux, on arrive mieux à parler, à mieux comprendre ses émotions et à quoi elles servent. Donc, je dirais, n'hésitez pas à venir essayer avec moi ou vraiment au sein de la MJC. C'est très intéressant de pouvoir rencontrer Dan. Même moi, les nouveaux élèves, j'en accueille toute l'année parce que c'est de l'impro, il n'y a pas de texte à... Donc, venez nombreux, n'hésitez pas à me demander, à avoir un entretien avant s'il y a des particularités. Donc, s'il y a un handicap, s'il y a une peur, une crainte.
Alizé, au nom de notre association, au nom de l'émission Babaco, bah, ça a été un plaisir de te parler, de t'écouter, de partager ce moment avec toi. Bonne continuation dans tes activités et au plaisir de te retrouver bientôt.
Merci beaucoup, à la prochaine.
L'association Educachou présente votre émission sociale de proximité Babaco sur votre radio. Babaco vous accompagne dans votre quotidien à la découverte des initiatives et des actions solidaires dans les quartiers et les villes de La Réunion. Babaco s'offre l'écho de vos projets, démarches et événements. Exprimez vos opinions, partagez vos doléances. Vous avez la parole avec Babaco. Vous êtes à l'honneur avec Babaco.